Radio Prague, les informations.
Václav Klaus a invité Mirek Topolánek au traditionnel déjeuner du Nouvel An au château de Lany. La collecte de l'épiphanie a commencé. Le sénateur Jaromír Štětina critique le président Václav Klaus. Comme le veut la tradition, le président Václav Klaus a invité le premier ministre Mirek Topolánek à un déjeuner solennel qui a eu lieu au château de Lany, près de Prague. Mirek Topolánek a saisi l'occasion pour lui présenter les projets de son cabinet pour cette année. Il s'agit en premier lieu d'ouvrir la réforme du système de retraite, de mener à bien la réforme de la santé publique et de mettre sur pied des changements dans le système de la justice. Ouverture dès ce mercredi de la collecte de l'épiphanie. Son coordinateur Marek Navratil estime que près de 4000 groupes comprenant notamment des enfants y participeront dans tout le pays. L'année dernière, près de 57 millions de couronnes ont été ainsi collectées. Le sénateur Jaromír Štětina pour le Parti des Verts a adressé une lettre ouverte au président de la République, lui demandant de s'excuser aux personnes qui, prônant des principes éthiques, cherchent à débarrasser la République tchèque du legs bolchevique. Il estime que celles-ci peuvent se sentir vexées par les propos que Václav Klaus a tenus ces derniers jours. C'est une allusion au discours du jour de l'an du président, ainsi qu'à ce qu'il avait dit avant Noël dans un débat télévisé, en désignant de ridicule ceux qui luttent aujourd'hui courageusement contre le communisme. La République tchèque pourrait adopter l'euro en 2019, c'est ce qu'a indiqué le gouverneur de la Banque nationale tchèque Zdeněk Toman dans une interview pour l'hebdomadaire Econom. En attendant, l'économie nationale sera capable de résoudre l'ensemble des problèmes qu'elle affronte et d'éviter les retombées négatives de l'introduction de la monnaie européenne. Selon les récentes statistiques, en 2007, les accidents de la route en Tchéquie ont fait 1111 victimes, soit 155 de plus comparé à l'année précédente. Ce sont la saison estivale et le mois de décembre qui semblent les périodes les plus critiques. Le skieur de fond tchèque Lukáš Bauer a remporté la victoire dans la course de 15 km technique classique à Nové Město na Moravě. Cette victoire lui a permis de confirmer et de consolider encore sa première position dans le tour de ski devant le Norvégien Geir Dahlen et l'Italien Pilar Kotrer. La course a mis fin à la partie tchèque de la série qui culminera par trois compétitions qui se dérouleront en Italie. Météo ce mercredi, le temps en République tchèque a été nuagé à couvert avec quelques rares chutes de neige. Les températures d'Inns s'échelonneront encore ce jeudi entre moins 4 et 0 degrés. Le ciel sera couvert avec des chutes de neige et un vent vigoureux. C'était donc le journal présenté par Alana Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Bienvenue à l'écoute de ce premier tour d'horizon de l'actualité tchèque de l'année 2008. Au programme de cette émission, il y a comme toujours au début de l'année les grandes lignes du discours du jour de l'an par lesquelles le président de la République tchèque résume en général la situation dans le pays et évalue ses perspectives. Nous vous entretiendrons également des réformes et des changements que la nouvelle année apporte aux citoyens tchèques en général et en particulier du nouveau système de communication entre le citoyen et l'administration, les centres Checkpoint qui sont mis en place ces jours-ci. Et pour terminer, nous évoquerons quelques exploits des sportifs tchèques de ces derniers jours. Merci de rester avec nous. Le discours traditionnel du jour de l'an a permis au président Václav Klaus d'évoquer les tournants de l'histoire moderne du peuple tchèque et de rappeler qu'actuellement la Tchéquie vit une période de prospérité sans précédent. Václav Klaus a rappelé d'abord les grands moments historiques qui ont marqué les années finissant par le chiffre 8, dont 1918, année de la création de la Tchécoslovaquie.
Nous nous rappelons avec satisfaction l'année 1918, année où est née la société démocratique et libre chez nous. il est bien qu'on puisse aussi caractériser par les mêmes paroles notre présent.
Že se těmito slovy dá charakterizovat i náš dnešek.
Et Václav Klaus d'évoquer les dates moins positives de notre histoire, dont 1938, qui a marqué la fin de la première République tchécoslovaque, ainsi qu'au 1948, année de victoire du régime communiste et de la fin de la démocratie dans le pays, et finalement 1968, année du dégel politique, le fameux printemps de Prague, bientôt écrasé par les chars soviétiques. Une partie du discours de Václav Klaus a été consacrée à l'entrée de la République tchèque dans l'espace Schengen. Le président estime que cette évolution positive apporte aussi certains risques. À son avis, il est important que les frontières s'ouvrent, mais les Tchèques devraient protéger et cultiver leur identité s'ils ne veulent pas perdre leur liberté. D'après Václav Klaus, malgré les problèmes existants, la situation économique de la République tchèque est très bonne et continue encore de s'améliorer.
Přál bych nám všem, aby se rok 2008 stal rokem naší aktivity.
Je souhaiterais à nous tous que l'année 2008 devienne l'année de notre activité dans les sphères personnelles et publiques, dans la vie privée et dans la politique, parce que, disons-le à haute voix, malgré un nombre non négligeable de problèmes individuels et politiques, nous vivons aujourd'hui probablement la meilleure période de l'histoire de notre pays.
Asi žijeme v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili.
Selon le président, malgré la croissance économique et le bien-être général, nous ne devons pas oublier les citoyens démunis et socialement faibles et tous ceux qui ont besoin de notre aide, dont les familles, les gens âgés, les sans-domicile, les Roms, etc. Au niveau des partis politiques, le discours présidentiel n'a pas suscité un écho très positif. Jiří Paroubek, chef du Parti social-démocrate, formation principale de l'opposition, estime que Václav Klaus a prononcé ce 1er janvier un de ses plus faibles discours. Quant au président du Parti communiste, Vojtěch Filip, il pense que ce discours n'a pas été équilibré. Et même Jiří Čunek, chef du Parti chrétien-démocrate, et Martin Bursík, président du Parti des Verts, formation qui font partie de la coalition gouvernementale, constate que le discours présidentiel manquait de vision pour l'avenir de la République tchèque. Les politologues cités par la presse voient dans ce discours relativement modéré le signe que Václav Klaus évite de froisser ceux dont il aura besoin pour son éventuelle réélection à la présidence de la République. En février prochain, il se mesurera avec l'économiste tchéco-américain Jan Švejnar, qui se profile d'ores et déjà comme le candidat présidentiel de l'opposition, mais aussi du Parti des Verts. La nouvelle année qui commence apporte aux Tchèques une révolution des prix la plus importante depuis la naissance de la République tchèque il y a de cela 15 ans. Un bref aperçu avec Jarka Gisiblova.
Le lot des réformes adoptées par le cabinet Mirek Topolánek est entré en vigueur depuis les premières minutes de l'année 2008. La Cour constitutionnelle n'ayant pas eu le temps d'examiner le projet d'annulation de la loi de la réforme qui lui a été remis par l'opposition social-démocrate. Pas moins de 50 lois sociales et fiscales sont modifiées par la réforme. Pour le cabinet, celle-ci était inévitable pour stopper l'endettement des budgets publics. Les 25 milliards de couronnes que la réforme devrait rapporter ne seront pas gratuits. Le cabinet augmente à 9% le taux réduit de la TVA, qui était de 5%, ce qui a pour conséquence la hausse du prix des produits de première nécessité, denrées alimentaires, médicaments, ainsi que par exemple les transports en commun dans plus de la moitié des villes régionales du pays. C'est aussi le prix du logement, du chauffage, de l'énergie, de même que celui des journaux et des livres qui augmentent, sans oublier l'introduction des paiements pour les consultations chez le médecin. L'impact sera sensible, estime l'économiste David Marek de Patria Finance.
Ce sera à mon sens une intervention dans les budgets familiaux de l'ordre de plusieurs centaines de couronnes mensuellement. Mais ces dépenses devraient être compensées par la diminution de l'impôt sur le revenu et donc par la somme dont les parents bénéficieront en plus.
Il a à l'esprit l'impôt unique sur le revenu de 15% en vigueur depuis le 1er janvier. Mais attention, cet impôt calculé sur ce que le cabinet appelle le salaire super brut, donc y compris les 35% que verse l'employeur à la sécurité sociale et à l'assurance maladie. Cette réforme sera donc favorable seulement à ceux qui ont des salaires élevés, au moins deux fois le salaire moyen, alors que la classe moyenne en paiera les frais. Concernant la sécurité sociale, le remboursement des congés maladie est supprimé lors des trois premiers jours. Les allocations parentales dépendront de la durée du congé. Plus il sera long, moins le parent sera indemnisé. Le cabinet a également diminué la prime versée à la naissance de l'enfant. La liste des perdants, dont les familles avec enfants, les personnes qui sont plus de 12 mois au chômage ou les malades qui ont besoin de se faire soigner dans les services d'urgence, est plus longue que la liste des gagnants, qui sont surtout les entrepreneurs, les personnes aux revenus très élevés, ainsi que, comme l'affirme le cabinet, les retraités qui voient leur pension valorisée de 3%. Quant au taux d'inflation en 2008, le vice-gouverneur de la Banque centrale, Miroslav Singer, évalue qu'il sera le plus élevé depuis les 10 dernières années, avant de revenir en 2009 à la normale.
Une nouvelle forme de service est offerte aux citoyens tchèques à partir du début de l'année 2008. Il se nomme Checkpoint et est destiné à faciliter et accélérer les formalités administratives. De quoi s'agit-il exactement? Plus de détails avec Alain Slevinsky.
Le premier Checkpoint a commencé à fonctionner en République tchèque au mois d'avril 2007, dans la ville de Pardubice, en Bohême centrale. Il faisait partie d'un programme pilote lancé par le ministère de l'Intérieur et auquel 37 villes tchèques ont participé au cours de l'année dernière. L'objectif était de concentrer la plus grande partie des formalités administratives en un seul endroit, comme l'explique Petr Kramaj de la mairie de Pardubice. Il nous donne quelques exemples.
Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, un extrait du registre cadastral ne pouvait être délivré que par le bureau du cadastre où était domicilié l'intéressé. Maintenant, cela est possible dans pratiquement tous les terminaux Checkpoint. En ce qui concerne le temps consacré à ces formalités, surtout la demande d'un extrait de casier judiciaire, on devait attendre de 10 à 15 jours avant qu'il ne soit envoyé de Prague. Aujourd'hui, le citoyen devrait l'obtenir pratiquement immédiatement.
Les terminaux Checkpoint devraient être capables de délivrer progressivement tous les formulaires dont les citoyens peuvent avoir besoin. Ils pourront aussi transformer des documents délivrés sur papier en documents informatiques. En fin de compte, les checkpoints devraient servir à assurer la communication entre le citoyen et la grande majorité des bureaux de l'administration. Naturellement, les services de checkpoint ne seront pas gratuits, comme le confirme Jan Kramaj.
La première page d'un document coûte 100 couronnes, un peu moins de 4 euros, et chaque page suivante 50 couronnes. La loi autorise les municipalités à utiliser des tarifs plus bas, jusqu'à 90% de moins.
Et où se trouvent ces fameux checkpoints? Dans les bureaux de l'état civil des mairies. Ce sont les employés de ces bureaux qui assurent le nouveau service. Il devrait y avoir dans les 4000 checkpoints répartis sur tout le territoire de la République tchèque, dont 2000 seront situés dans les bureaux de poste. Ils entreront en service progressivement au cours de l'année 2008. Donc plus besoin de faire de longues queues, de perdre beaucoup de temps, même des semaines, pour obtenir par exemple un extrait du registre du commerce indispensable à la fondation d'une nouvelle société. Une pratique qui était d'ailleurs très critiquée par la Commission européenne.
Le premier jour de la nouvelle année a été un succès pour le ski tchèque. Après la quatrième étape du tour de ski, deux Tchèques étaient en tête du classement provisoire. En saut à ski, le jeune Roman Koudelka a réussi une belle prestation dans la tournée des quatre tremplins. En revanche, le nouvel an n'a pas réussi à la slalomaise Sharka Zahrobska, qui s'est blessée avec une bouteille de champagne. Tour d'horizon de ses fortunes et déboires avec Alexis Rosenzweig.
L'année a commencé par un triomphe tchèque, c'est le titre du quotidien Sport, daté de ce mercredi. Avant la cinquième étape du tour de ski, ce sont en effet Lukáš Bauer et Martin Koukal qui, après le 15 km style libre de lundi, avait pris la tête du classement général provisoire. Et Lukas Bauer a confirmé mercredi, dans le 15 km Stier classique, la cinquième étape, donc toujours à Nové Město en Moravie. Après 5 des 8 étapes, le Tchèque est en tête du classement général provisoire avec plus de 2 minutes d'avance sur le Norvégien Geert Dalen. Petit malentendu dans ce tour de ski dont les règles manquent de clarté, Lukas Bauer n'a pas gagné les 2e et 4e étapes puisqu'il était parti avec de l'avance ayant remporté le prologue. Le Tchèque devra donc rendre l'argent offert par la Fédération internationale de ski en récompense. Et c'est le Français Emmanuel Jonier qui se voit attribuer 5000 francs suisses pour son meilleur temps dans la 2e étape et l'Italien Pilar Cotrer pour la 4e étape. On passe au saut à ski maintenant avec la belle prestation de Roman Koudelka dans la tournée des 4 tremplins. À 18 ans, le Tchèque a terminé 4e à Garmisch-Partenkirchen. Une vraie performance car avec deux sauts à 132 mètres, il termine devant le grand favori de la compétition, l'Autrichien Thomas Morgenstern. Au classement général provisoire, après les deux premiers tremplins, Koudelka occupe la 9e place. Son compatriote Jakub Janda pointe en 19e position. Côté mauvaise nouvelle maintenant, Charka Zahrobska s'est blessée le jour de la Saint-Sylvestre et pas sûr qu'on reprenne la pauvre slalomeuse à baptiser une nouvelle piste de sitôt. À Vitkovice, dans les Monts des Géants, elle a pris un éclat de verre sous l'œil et ce, en cassant une bouteille de mousseux avec un marteau. Et oui, vous avez bien entendu, l'alcool fait des dégâts, même quand on ne boit pas. Résultat, 4 points de suture et la Tchèque n'est pas sûre de disputer le prochain slalom géant de la Coupe du Monde. Un slalom qui devait se dérouler ce week-end à Spinderhovmlin devant son public. Son entraîneur de pair, Peter Zahrowski, le concède. C'est la poisse, ses chances de prendre le départ sont à 50-50. Mais l'important, c'est que Charka aille bien.
Fin de ce premier tour d'horizon de l'actualité tchèque de l'année 2008. Et nous prions les amateurs d'histoire de nous prêter leur attention parce que leur moment est venu.
Chapitre de l'histoire tchèque.
De Gaulle et les Tchèques est le thème de ces premiers chapitres de l'histoire qui vous sont proposés par David Allon et présentés par Alain Slivinski et Yerkagi Sublova. Entre le général de Gaulle et la Tchécoslovaquie, l'histoire n'aura pas été aussi pittoresque qu'avec, par exemple, les États-Unis. Mais de Munich en 1938 à Prague en 1968, la solidarité intellectuelle de l'homme du 18 juin avec l'allié tchèque indéfectible. L'homme et la nation ont une valeur en commun, l'indépendance.
Nous capitulons sans combat devant les exigences insolentes des Allemands et nous livrons à l'ennemi commun nos alliés les Tchèques. Les Français, comme des étourneaux, poussent des cris de joie pendant que les Allemands entrent sur un territoire dont nous garantissons les frontières. Nous boirons le calice jusqu'à la lie.
Ainsi s'exprime le colonel de Gaulle dans une lettre à sa femme Yvonne peu après la conférence de Munich en octobre 1938. Avant de constater ce qui n'est pas rien sous la plume du futur garant de la puissance hexagonale, la France a cessé d'être une grande nation.
De Gaulle se sent humilié par le lâchage de l'allié de la France et le consentement général face au dépècement de la Tchécoslovaquie. L'amertume ne cache qu'une demi-surprise. De Gaulle, visionnaire, a compris l'importance des chars dans la guerre qui approche. Durant les années 30, l'état-major a fait la sourde oreille à toutes ses propositions. Même si elle le voulait, l'armée française serait incapable d'aider les Tchèques. La stratégie officielle, qui repose sur l'infaillibilité de la ligne Maginot, interdit tout mouvement offensif.
Et cette stratégie n'aura pas permis à la France de tenir très longtemps face au panzer allemand. De Gaulle l'avait prévu. Le 10 juin 1940, il s'envole pour Londres pour organiser la France combattante.
Parmi les premiers à le rejoindre, on retrouve René Cassin. Ce grand juriste est également un vieil ami d'Edouard Beneš, futur président de la Deuxième République tchécoslovaque. Beneš suivra avec attention les aléas de la France libre et de son chef, le général de Gaulle. Faisant allusion aux relations très difficiles entre le président américain Roosevelt et de Gaulle, il déclare à René Massingly en 1943 « Roosevelt n'est pas seulement anti-gaulliste, il est tout bonnement anti-français ».
Une remarque assénée un peu brutalement, mais qui reflète une réalité indéniable pour le président américain, la France, vaincue, a perdu son statut de grande puissance. Après la guerre, il compte en faire une sorte de protectorat américain. Le gouvernement tchèque en exil sera l'un des premiers à reconnaître en juin 1944 l'autorité du gouvernement provisoire de Gaulle sur la France libérée.
D'une manière plus anecdotique, on verra aussi le fils de Tomáš Masaryk aux côtés des Français libres de Londres. Nous sommes en novembre 1942. De Gaulle et son entourage subodorent depuis quelques semaines un projet anglo-américain de débarquement au Maroc et en Algérie, alors sous administration de Vichy. Le 8 novembre, Jan Masaryk confie à René Plevant. C'est pour cette nuit. La nouvelle est confirmée quelques heures plus tard par Churchill. Les alliés n'avaient pas jugé bon d'informer de Gaulle. Il en sera furieux et ses relations avec les alliés un temps menacées.
Après la fin de la guerre, il faut attendre 1959 pour voir de Gaulle revenir sur la scène politique française. Mais cette fois-ci, c'est pour prendre la présidence du pays. À la faveur d'un contexte international de détente est-ouest, la France renoue alors des relations avec l'Europe de derrière le rideau de fer.
À partir du milieu des années 60, de Gaulle entreprend une percée diplomatique à l'est, à l'instar de l'ostpolitik pratiquée par le chancelier de la RFA, Willy Brandt. Il s'agit aussi pour de Gaulle d'affirmer, face aux États-Unis et à l'Union soviétique, l'indépendance de la politique étrangère française et son refus des blocs.
En septembre 1964 est signé le premier protocole d'échange culturel franco-tchécoslovaque. Si l'accord est symbolique, il n'en aboutit pas moins à la reprise des échanges entre les universités de deux pays, Académie tchécoslovaque des sciences et École pratique des hautes études, Université Charles et Sorbonne. C'est dans ce climat, favorisé par la déstalinisation en Tchécoslovaquie, qu'Henri Herret, conseiller culturel à l'ambassade de France à Prague, fera un instant renaître l'Institut français rue Štěpánská.
Même si les échanges sont timides, c'est sous la présidence du général de Gaulle que reprennent les relations entre les deux pays après deux décennies de gel. En août 1968, de Gaulle condamnera sans équivoque l'écrasement du printemps de Prague.
Et pourtant, ironie de l'histoire, c'est un espion tchèque, le colonel Josef Jindřich, qui sera impliqué dans une tentative d'attentat contre de Gaulle au Liban à la fin des années 60. Une bombe devait exploser à Beyrouth à l'occasion d'une visite du président français. Afin de brouiller les pistes, les services secrets tchécoslovaques auraient loué les services d'un commando palestinien. L'un des buts de la manœuvre était de faire accuser les États-Unis, dont on savait l'hostilité face à ce De Gaulle qui avait fait sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. De Gaulle a finalement dû annuler sa visite et rien ne s'est donc passé.
Personne n'a jamais officiellement prouvé une telle tentative d'attentat. Elle a été évoquée par un certain Josef Frolik, un ancien des services secrets tchécoslovaques, dans ses mémoires. La thèse en paraît pour le moins farfelu.
L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Nous espérons que vous nous écouterez aussi demain, après-demain et pendant toute cette année et vous souhaitons qu'elle soit pour vous l'année de santé et de bonheur.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz and 15.